Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Et il y a de la joie à partager, mais aussi une responsabilité à partager la parole de Dieu. Beaucoup sont en déplacement et j'espère que là où ils sont en déplacement, ils écoutent aussi la parole. Mais ça, c'est la responsabilité personnelle de chacun qui est engagé. Ce matin, je vais vous inviter à voyager, pas physiquement, parce qu'il faut quelques conditions sanitaires supplémentaires, mais à voyager, imaginez une petite scène. Et je vous invite surtout à porter votre regard sur Dieu. Bien sûr, on ne peut pas voir Dieu, nul n'a vu Dieu. Moïse l'a vu par derrière, il l'a vu passer quand il était dans le creux du rocher. Mais je vais vous inviter à considérer surtout Dieu dans ce qu'on va partager ce matin. Et tout ce qu'il va accomplir, manifester à l'égard de ceux qu'il aime. Hein, vous verrez que c'est incroyable. Et c'est toujours, comme l'ont dit plusieurs dans leur louange, c'est difficile de rendre la gloire à Dieu parce qu'il est tellement grand et puissant qu'on se sent tellement microscopique à côté de lui qu'on se dit comment on va faire. Et alors le Seigneur connaît nos cœurs. C'est le psalmiste qui dira ceci dans le psaume 119. Il va dire, ne le cherchez pas, je vous le lis juste pour introduire, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Aux simples, non pas, vous comprenez, c'est pas péjoratif, aux gens qui veulent être disposés et disponibles. Et ce matin, je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes en bonne disposition, dans de bonnes dispositions, mais on reçoit la parole de Dieu, je dirais, avec un cœur ouvert, avec la foi. Et si vous voulez que la parole de Dieu, si nous voulons que la parole de Dieu soit efficace dans nos vies, il faut, bien sûr, y placer toute notre confiance, bien sûr. Je vais lire avec vous, nous allons lire un passage fort connu. Mais le problème, c'est qu'il est tellement connu qu'on passera, on va lire, on va dire, bon, ok. Mais lisons-le en regardant au vigneron, dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, les premiers versets de Jean chapitre 15. Jésus dit ceci, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alléluia. Alors, des versets directs de la part du Seigneur, assez percutants, mais aussi qui nous amène à réfléchir. Et je voudrais peut-être enlever une certaine ambiguïté qu'il peut y avoir sur ce passage, parce que des fois, à la lecture, on peut rester assez bloqué. Et pour ce faire, on va voir les trois états, les trois conditions possibles du sarment, du chrétien, dirons-nous, hein, qui sont décrits dans cette image donnée par le Seigneur, ici, là, dans ce moment. D'ailleurs, pour deux d'entre eux, deux images qui sont là, on peut être tour à tour l'une ou l'autre. Dans un cas de figure ou dans l'autre cas de figure. D'accord ? Donc vous êtes prêts à imaginer un petit peu, surtout le vigneron qui va s'occuper de la vigne, hein, et réfléchir avec moi à certaines choses. Alors déjà, d'entrée, je dis, parce qu'ici, il y a des gens professionnels de la terre, hein, que je suis incompétent. Hein, d'accord ? Vous me regardez, je vous regarde. Ok ? Donc ne m'en voulez pas, si, mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai des supports du premier siècle, donc j'ai moins de risques, j'en parlerai tout à l'heure. Donc s'il y a des erreurs sur tout ce qui est plantes, etc., vous me ferez un cours particulier par la suite, sans problème. Je dis ça surtout pour certaines personnes qui ont raison de me faire remarquer des réalités. trois états, trois conditions possibles. Et j'aimerais, je crois que Dieu veut, au travers de ça, nous inviter à bien savoir nous situer les uns les autres pour grandir et pour porter du fruit. Parce que la réalité, vous l'avez vu, c'est le verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors mes disciples. » Et vous serez mes disciples. Donc nous voyons que le disciple, le véritable disciple, il est invité, il n'est pas invité, il doit, il est comme conditionné à porter du fruit, et bien plus de fruits. Il doit aller dans ce registre-là. Alors je pourrais aborder ce passage d'une manière culpabilisante, d'une manière accusatrice, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais je voudrais essayer de me mettre dans une réflexion spirituelle et dire, Seigneur, comment toi tu nous parles? Qu'est-ce que tu nous dis? Pour cela, on va s'approcher du texte. Vous remarquez que le premier cas de figure, tout serment verset 2, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors là, c'est dur, hein? Parce qu'on se dit, si mince, un jour on ne porte pas assez de fruits, le Seigneur, et qu'est-ce qu'il fait avec nous? Alors, laissez-moi vous amener à réfléchir selon le texte d'origine. Certains pensaient que si ce serment ne porte pas de fruits, il n'est pas vraiment chrétien. Est-il né de nouveau? Je me rappelle d'une situation dans une autre ville, il y a très longtemps, un homme s'était converti et son épouse, qui était convertie depuis longtemps, voilà, elle disait au bout d'un moment, de quelque temps, « Mais vous voyez, il fait ça, est-ce qu'il est vraiment converti ?» Comme si la conversion résolvait tous les problèmes de l'être humain et sa nature. Non, elle réconcilie Dieu avec l'homme, la grâce, elle amène un cœur nouveau, mais qui est en devenir, qui grandit, qui va produire du fruit dans le temps aussi. Et il y a une différence entre la sanctification, là, le salut par grâce instantané, qui est donné par le Seigneur, avec aussi la sanctification progressive qui est au quotidien. Hein, ça, j'en ai déjà assez parlé. Voilà. En fait, ce n'est pas ce que dit le Seigneur ici. Quand il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le retranche », le mot « retrancher » là est un peu spécial. Et laissez-moi lever un petit peu le voile. En grec, le mot retranché, c'est eros, A-I-R-O-S, comme l'air. Vous savez, l'air, eros, hein, en l'air. C'est employé 142 fois dans le Nouveau Testament. J'ai regardé avec les logiciels, j'ai pas compté. Hein. C'est les logiciels qui vous disent combien ça fait. Et 82 fois dans les évangiles. D'accord? Ça signifie quoi? Trois choses. Ça signifie lever, soulever, élever. Ça, c'est la première définition. Lever, soulever, élever. Deuxième définition, deuxième déclinaison de ce mot grec, eros en grec, hein, c'est déplacer, porter, s'approprier. Je vais rentrer dans les détails. Hein. Déplacer, porter, s'approprier. Et la troisième définition, c'est enlever, faire disparaître. D'où ici, peut-être que c'était traduit par le mot retrancher. Vous voyez? Ils ont pris la troisième déclinaison, ils ont mis retrancher. Pour vous donner une idée plus précise de ce mot, je voudrais vous donner quelques exemples où il est employé dans le Nouveau Testament, que vous connaissez des récits. On en donne trois. Vous savez, quand Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin, au chapitre 4 des Actes, il nous est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils élevèrent, le mot « ils élevèrent la voix de tous ensemble », et après ils vont prier, ils vont demander d'avoir plus d'assurance. C'est le même mot, c'est « eros ». D'accord ? C'est le même mot. Donc, nous voyons ici que lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, etc. » Nous voyons bien que c'est « élever ». C'est dire à Dieu, élever sa parole vers Dieu. Quand Jésus va croiser et va vouloir manger des figues sur ce figuier, il n'en trouve pas. Et ce figuier va être maudit. Il va faire le parallèle avec la foi, si vous avez de la foi. Hein? Donc, il est dit dans Matthieu 21:21, « Je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, « Ôte-toi !» C'est Aéros, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Je ne veux pas vous parler de la foi. Je veux vous parler juste que le mot Aéros, là, est employé dans le sens de ôter, de déplacer. Hein, c'est la deuxième définition du mot. Troisième définition du mot qui parle d'enlever, faire disparaître, c'est quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il va donner des conseils, Éphésiens 4:31, c'est juste une réflexion, hein. Que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez, là, c'est le même mot qu'on pourrait le traduire par « soit retranché du milieu de vous ». C'est la même chose. Donc le mot « eros », vous voyez, en grec, a plusieurs axes. Et nous, quand on met retranché, retranché, pour nous, c'est vraiment ôter et jeter loin, ce qui est peut-être pas faux en soi, mais il peut y avoir des nuances. Alors, le problème du serment ici, de ce serment, c'est qu'il est attaché au cep, mais il ne porte pas de fruits. C'est ça le problème, c'est pas vrai ? Ça va jusque-là, je ne me suis pas trop trompé. Ça ne signifie pas que le vigneron, notre Père Céleste, dès qu'on ne porte pas un fruit ou du fruit, il vient, il nous retranche, il nous ôte du cep et il nous met de côté. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça, on le voit plus tard, plus loin. Hein ? Mais ça signifie bien plus que le vigneron va intervenir à l'égard de ce sarment qui ne porte pas de fruit et il va produire une action, un mouvement qui va certainement permettre un changement remarquable pour ce sarment. Du fait qu'il ne portait pas du fruit, voilà, et vous verrez tout à l'heure, je parlerai de comment cultiver la vigne dans le premier siècle, vous vous apercevrez, vous comprendrez un peu mieux l'image certainement qui est là. Le vigneron, finalement, fera tout ce qui est en son pouvoir pour produire un changement. Il va faire quelque chose. Alors que fait-il ? Que va-t-il faire ? On peut comprendre qu'il va soulever ce serment qui est peut-être à même le sol. Pardon. Le vigneron élève ses branches qui étaient stériles, peut-être là, à ras le sol, afin qu'elles puissent être mieux exposées, relevées. Et alors, vous qui connaissez la vigne, pensez que ça ne fonctionne pas comme on fait aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toute une autre méthodologie, si j'ai bien compris. J'ai recherché pendant un moment pour ne pas être en dehors des clous. Mais il relève ce sarment pour mieux l'exposer, pour lui faire prendre un peu d'aéros, d'air, pour le mettre peut-être plus en vue du soleil, pour que le soleil puisse maintenant produire quelque chose sur ses branches, qui était peut-être là, plus bas. Il fait ça pour aussi qu'elle ne se corrompe pas. Vous savez très bien que posée sur la terre, en contact avec la terre, il peut y avoir plus de parasites, il peut y avoir des problèmes de pourriture, etc., de moisissure. Et donc, pour éviter ces choses, le vigneron intervient dans sa vigne. Et nous sommes des sarments les uns les autres, nous qui avons fait la paix avec le Seigneur. Et parfois, dans nos vies, le vigneron intervient. Il nous permet des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner ? Je pense à ça. Il peut nous ôter d'un contexte par les circonstances de la vie. Ça peut être un déménagement. Et c'est ainsi qu'en quelques jours, il y a des gens qui perdent leur travail, ils perdent certains contextes de vie chrétiens, je parle des enfants de Dieu. Ils se retrouvent dans des situations où ils sont comme déplacés, comme élevés, changés. En mutation, pas mutation professionnelle obligatoirement, mais un changement de contexte. Ça peut être des études, ça peut être tout un tas de choses qui font que la retraite, etc. Le but, je pense, c'est que Dieu permet aussi qu'il y ait ces changements, des fois, dans la vie du sarment, pour produire bien plus de fruits, pour maintenant donner la vie, une vie abondante. Parce que vous remarquerez que l'intention du vigneron, c'est qu'il y ait du fruit. C'est la vie et la vie en abondance. Dieu veut donner à chacun d'entre nous, peu importe l'âge de notre sarment, hein, il y en a qui, une fois j'avais parlé des vieilles branches, on me le dit à chaque fois, hein, peu importe l'âge de votre sarment, mais vous pouvez avoir la vie de Dieu, vous pouvez connaître la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu dans votre cœur, et imaginez le temps que Dieu passe à porter ses regards sur ses enfants, à préparer des contextes, à mettre en action, il est vraiment le divin vigneron. Je suis toujours surpris par le travail des agriculteurs, le temps qu'ils passent à faire les choses, la patience qu'ils ont. Et je ne les flatte pas, là, parce que je ne les envie pas, parce que je suis nul en agriculture. Mais je suis toujours surpris par le travail incessant. Et le divin maître, il fait ces choses. Ce vigneron agit, il fait ces choses dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, je dirais, il l'élève, il le déplace. C'est pas qu'il le détache ou il le retranche du cep, mais il le retranche peut-être de cette position dans laquelle il se trouvait pour l'amener là, afin que maintenant il y ait d'autres conditions pour le fruit. Et on pourrait développer plusieurs aspects. Vous savez, parfois c'est une distance qui se produit avec des personnes dans lesquelles on était peut-être dans un contexte qui ont pu nous influencer parfois d'une mauvaise manière. C'est l'apôtre Paul qui dira dans l'épître aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et un serment qui se trouve dans un contexte où il y a toujours des compagnies néfastes, ben c'est difficile de résister. Il peut y avoir une influence, il peut y avoir une communication. Et Dieu permet des choses. Et voilà, le vigneron, voyant que votre vie spirituelle était peut-être plus stérile, qu'est-ce qu'il fait ? Voire même en danger, il pose sa main dans les circonstances et d'un coup, il change. Il y a quelque chose qui se passe, qui est indépendant de nous. Et c'est Dieu qui fait grâce parce qu'il est bienveillant à notre égard. Il t'aime, il nous aime. Et des fois, excusez-moi, on n'est pas assez grand pour savoir nous se guider soi-même. Heureusement qu'il y a notre grand vigneron, notre Père Céleste. Je veux dire, le grand-père, c'est peut-être péjoratif inconsciemment, mais ce n'est pas bien. Mais notre Père Céleste est vraiment à des intentions extraordinaires. Il veut que tu portes du fruit. Et pas question, je suis capable, pas capable. Une question de je demeure en lui ou pas. C'est différent. Si tu es en lui, si tu es en Jésus, intègre bien que certaines choses qui t'arrivent ou qui vont t'arriver parfois, c'est bien le divin vigneron qui les a coordonnées. Toi, moi, je n'ai rien compris, mais lui, il comprend tout. Hein. Il est maître même de l'avenir, il a tout sous son contrôle. Ce qui t'est arrivé ou t'arrive, t'as été salutaire et produit du fruit peut-être que, dont tu n'as pas conscience. Et c'est là la victoire du Seigneur, c'est là la grâce de Dieu. Et quand il a dit, quand on a chanté que Dieu ne dormait pas, c'est vrai, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, mais celui qui veille aussi sur ses enfants, je crois. Il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire qu'il va tout mettre en place. Il va produire des circonstances. Et il utilise le maître des temps des circonstances, disons-nous, souvent, et c'est une réalité. La Bible dit, par exemple, dans Ésaïe 26:7, « Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. » Ça ne veut pas dire que tout est bien, tout facile, mais ça veut dire que quand tu ne produis pas de fruits, qu'est-ce que tu fais ? Ben, il a plané notre sentier en nous changeant de contexte. Il permet que ça se change, qu'il y ait d'autres ouvertures. Bien évidemment, parfois, ça peut être douloureux, ces changements, parce qu'on s'habitue à un contexte, c'est sécurisant, mais Dieu fait grâce et change les choses. Vous savez, dans Romains 8, 28, je vais vous le lire dans la version Semeur. Pardon, il est dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » C'est-à-dire, il fait concourir pour le bien, pour la vie, pour le fruit. « En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » Donc, dans la première phrase ici qu'on a lue, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, » ben, il le retranche. Moi, on pourrait le traduire ainsi. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le soulève, il le déplace. Vous le comprenez. D'ailleurs, cette pensée fait écho à la parabole. Vous savez, quand Jésus va communiquer, va comme lancer un appel à la repentance, il va dire, vous savez, est-ce que ceux sur qui la tour est tombée et ils sont morts étaient plus incrédules, etc., et pécheurs que vous? Il va lancer un appel à la repentance par la suite. Luc 13, verset 6. Il lit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Et vous allez voir là comment... regardez un petit peu la situation. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Alors il parle d'un figuier et il dit au vigneron. Hein, mais parce que le figuier est situé là. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Et ça, c'est l'image de cette attitude, de cette manière de faire de notre Dieu. Combien de fois il aurait pu, excusez-moi le terme, nous retrancher complètement de sa présence, mais dans son amour, malgré tout, il va faire, il va prendre soin, bon alors il s'y met du fumier, etc., pour donner vie, il va tout mettre en place pour que je puisse avoir la vie, que tu puisses avoir la vie. Ce n'est pas Dieu qui nous sert, hein. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce registre-là. Mais Dieu qui nous aime et qui connaît nos limites, c'est tellement prendre soin de nous, de chacun d'entre nous. Ici, mais aussi vous qui êtes sur Zoom. Alors ce figuier ne donne pas de fruits. Une action du vigneron va se mettre en route. Il va demander un sursis. Et si Dieu n'était pas compatissant, là, la colère, je pense qu'il n'y aurait personne ici. Et peut-être qu'il n'y aurait personne sur la planète aujourd'hui. Hein, de pêcheurs, de voilà. Mais Dieu, dans son amour, il n'est pas faible, il est juste, il est vrai. Il fera justice, mais il a produit une justice pour ceux qui veulent croire dans son Fils. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Combien de fois le serment que nous sommes aurait pu être définitivement retranché, Giuseppe, combien de fois ? Je sais pas. Dans le psaume 103, verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas attention aux péchés, ça ne veut pas dire ça. Et il y a comme un père à compassion de ses enfants, l'éternel à compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Donc, si je ne porte pas de fruits, si tu ne portes pas de fruits, dis-toi bien que ton Père Céleste va intervenir. Il n'y a pas à intervenir à grands coups de sécateur, mais il va élever, il va te mettre dans une autre disposition. Reconnais à ce moment-là qu'il faut accepter la vie et vivre pour lui, pour sa gloire. Deuxième attitude du serment qui est possible, c'est ce que nous voyons par la suite. Et tout serment du verset 2, tout serment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, là, toujours un peu le mot grec, alors, je suis pas grec moi, hein, mais quand même, j'ai été regardé. Là, c'est le même mot que aéros, mais devant, il y a kathairos, K-A-T-H-A-I-R-O-S. K-A-T-H-A-I-R-O-S. Laissez-moi vous donner quelques, j'avais dit tout à l'heure que je donnerais quelques informations concernant, d'après les monuments historiques, d'après les livres historiques qu'on peut connaître, les écrits. C'est Pline le Jeune. Pline le Jeune, c'est un avocat du 1er siècle, hein, 61 après Jésus-Christ. C'est un avocat romain qui était sénateur aussi. Hein, j'y regardais un petit peu parce que je ne le connaissais pas trop. J'en avais entendu parler, mais je ne sais pas qui il était. Il a vécu de l'an 61 à 113 à peu près. Il va donner des précisions sur ce sujet de la vigne. Il va expliquer certaines choses et il va dire ceci, que les cultivateurs de l'époque avaient repris la technique romaine et ils faisaient cela. Ils levaient les serments sur des treilles. Hein, treille, vous savez ce que c'est, ces trucs-là, plus haut, là, plutôt que de les laisser au sol, pour éviter de pourrir. Donc, on retrouve ce qu'on a dit à Eros. Deuxième chose qui souligne, c'est qu'il y avait deux émondages dans l'année, deux fois par an, donc kata Eros, hein, en automne, ce qui était mort et sec tout en laissant des branches inutiles. Voilà, il nettoyait, si vous voulez, il émondait tout ce qui était mort, sec, il le sortait, comme on peut le faire, je crois, dans la vigne aujourd'hui, quand c'est en hiver. On enlève les branches inutiles. Pourquoi ? Mais on en laisse quelques-unes pour afin que l'année suivante, elle porte du fruit. Hein ? Au printemps, il y avait un autre émondage, et ces branches alors étaient émondées, purifiées, débarrassées de certains bourgeons et rejetons inutiles, et aussi ôtées si on pouvait enlever des insectes et des parasites. Aujourd'hui, on fait des traitements, mais à l'époque, c'était peut-être beaucoup moins, excusez-moi le terme, pollué, proliférant certaines variétés de parasites. Donc, émondé, kathairos, lui, c'est que deux fois dans le Nouveau Testament, ce terme-là, j'ai regardé que deux fois. Ça signifie, premièrement, nettoyer, enlever les impuretés. Deuxièmement, émonder les arbres et vignes des pousses inutiles. Troisièmement, il y a une métaphore, c'est supprimer la culpabilité, expier. Et on va y venir tout à l'heure. Donc, la vigne est nécessairement taillée. Et ça a été dit, je crois, à une introduction de prière lundi matin par notre sœur qui partageait. Introduisez le temps de prière du lundi matin par Zoom. La vigne est nécessairement taillée. Sinon, les serments grandissent de plus en plus aux dépens des fruits. Et plus, moi, je vois dans mon jardin, j'ai une espèce de vigne sauvage, là, elle fait des mètres et des mètres de serments là-bas. Hein, alors, je ne sais pas ce que c'est comme ce type de truc, là, c'est une plante. Voilà. Hein. Mais j'avais vu qu'il y avait quand même un peu de fruits. Et quand j'ai travaillé ça, je dis, il faudrait peut-être que je la coupe, comme ça, peut-être un jour, elle fera un peu plus de fruits. Mais bon, je crois que ce n'est pas la peine que j'essaye. Sinon, les serments grandissent de plus en plus aux dépens des fruits qui vont devenir de plus en plus petits. Alors, il y a un juste équilibre, dirons-nous, entre la longueur du serment, je pense, et la production du fruit. Oui, on peut comprendre avec la notion de prendre de l'énergie pour éviter. Ça, c'est aux dépens du fruit. Cela me fait penser un peu à la vie chrétienne. Les longs serments avaient des petits fruits. Ça peut représenter, par exemple, une vie chrétienne qui est tournée principalement vers soi, vers le serment, vers le besoin du serment. La prière peut se résumer, et je caricature, ne le prenez pas mal, parce qu'on s'y retrouve tous un jour ou un autre, la prière peut se résumer à « bénis-moi », mais « moi hein, »,« je »,« moi »,« fais »,« agis, s'il te plaît »,« moi »,« toi »,« travaille », etc. Là, il ne parle pas, il ne bégaye pas. Hein, mais je veux dire que toutes les phrases qu'on va prendre, c'est des phrases qui sont orientées vers soi, qui vont rechercher les besoins du serment. La parole que je vais sonder, ça va être une parole où je recherche que des réponses pour moi, que pour moi, des promesses. Alors que je suis peut-être fan de toutes les promesses qui existent, mais je regarde jamais les conditions des promesses. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Donc je vais travailler, je vais souligner que les belles phrases qui me parlent, ça me parle à moi. Mais en fait, peut-être c'est pas ça, que ça. Mon service dans l'église, il est peut-être là, mais il y a que mon service. Le reste, je sais pas ce qui existe. Ça ne m'intéresse pas, parce que bref, c'est mon service, et c'est mon service, et pasteur, c'est mon service. Oui, pas de problème, vas-y, pas de souci, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas que notre service, il y a le service pour le Seigneur. Et là, j'exagère, je caricature, vous le comprenez, et ne le prenez pas mal, hein, si on s'y retrouve parfois. Mais ça, c'est chercher à être un long sarment, à prendre toute l'énergie que Dieu veut me communiquer que pour se atteindre soi. Et quelque part, développer, se développer soi. Mais ça, c'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu veut bien sûr qu'on grandisse, mais il veut surtout qu'on se tourne vers lui, vers sa gloire. Les fruits deviennent plus abondants quand l'attachement au cep a pour but d'accomplir le dessein divin. Si je veux porter du fruit, et si nous voulons porter du fruit pour la gloire du Seigneur, la première chose, c'est de chercher le dessein divin et la présence de Dieu demeurer en lui. Et après, les choses se feront. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui produira les choses, qui mettra les circonstances en route. Qu'est-ce qui encore doit être émondé dans la vie du chrétien ? Eh bien, au sens moral, vous rappelez la métaphore, libéré de toute culpabilité. De toute culpabilité. Parce que le Seigneur a pourvu à l'expiation de nos péchés. Hein ? Il a fait allusion, notre frère, tout à l'heure, au Lévitique. Dans le Lévitique, justement, il y avait le sacrifice de culpabilité. Hein, le sacrifice de culpabilité, 23 fois dans le Lévitique, c'est mentionné. Il était souvent associé au sacrifice pour le péché ou le sacrifice d'expiation. Et si vous regardez ce sacrifice, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend, et c'est préfigurant l'œuvre de Jésus, seule l'œuvre parfaite de Christ va éradiquer toute la culpabilité. C'est vrai. Hein ? C'est dans la repentance que l'on obtient le pardon de Dieu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais le sacrifice de culpabilité, il y avait aussi la réparation. C'est-à-dire que si vous regardez, justement, dans le livre du Lévitique, vous apercevrez que non seulement on donnait un bœuf, mais il y avait aussi une compensation monétaire. Lévitique chapitre 5, versets 14 à 26. Vous verrez ça. En réparation de l'offense occasionnée. C'était non seulement je donne un bœuf, ça avait un coût, hein, je veux sacrifier ce bœuf pour être pardonné, pour que mon péché soit expié, mais en plus il y avait une compensation monétaire. Alors pourquoi je vais là, sur ce chemin-là ? Le vigneron me libère de toute culpabilité en Jésus, c'est vrai, mais il me demande, selon l'offense, de réparer les torts occasionnés. Eh oui, hein, je vais peut-être être invité, alors que Dieu me pardonne, à demander pardon à quelqu'un. Je vais peut-être restituer quelque chose à quelqu'un, ou à un organisme, aux impôts, aux assurances, je ne sais trop quoi. Je vais confesser un fait, un acte à quelqu'un. Et voilà, il y a toujours une notion dans ce sacrifice de culpabilité. Il y avait donc pour le pardon à l'égard de Dieu, l'expiation à l'égard de Dieu, mais il y avait aussi une notion de réparation. D'ailleurs, on le dit, quand quelqu'un se convertit, on l'invite à faire le point et à se tenir devant Dieu, parce qu'il y a peut-être des choses à réparer. Il y a peut-être des casseroles à mettre au placard. C'est pas une expression, mais je l'invente. Vous savez, comme dans l'Épître au Philémon, vous connaissez l'Épître au Philémon, c'est le chapitre. Vous ne fatiguerez pas si vous le lisez. Hein. Philémon, c'est bizarre, la providence de Dieu. En voilà un autre qui va se retrouver en prison là-bas, avec Paul à Rome. Et l'épître Philémon est adressé à Philémon, qui était le maître de ce serviteur Onésime, hein, qui était esclave dans la maison de Philémon. Et alors qu'il est au contact, en prison, par contact, il est évangélisé, il se donne au Seigneur. Voilà que Paul va écrire une lettre en disant à Philémon d'accepter cela. Il dira, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Parce que lui, là, Onésime, il s'était sauvé. Il ne voulait plus subir l'esclavage de Philémon. Il en avait peut-être assez. Il voulait voir du pays, mais il s'est retrouvé en prison. Super bien. C'est bien là, l'endroit où il s'est trouvé, mais c'est là que Dieu l'attendait. Et alors qu'il se donne au Seigneur, Paul écrit, il renvoie. Et nous voyons bien qu'il va venir certainement donner cette lettre, revenir dans la maison de son maître Philémon. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais on peut bien comprendre certaines choses. Et alors, ce n'est plus une position d'esclave, c'est une position de frère dans la foi. Et lorsque, parfois, on a pu faire des choses qui ont besoin d'être réparées, si on a le courage de le faire, et il faut avoir du courage, vous remarquerez que cela vous donnera de la force dans la grâce de Dieu. Le premier sarment, il ne portait pas de fruits, pourtant il était bien dans le cep, attaché au cep, greffé ou hanté sur le cep. Le deuxième, il porte du fruit, alléluia, mais il est encore émondé. On n'est jamais arrivé, et Dieu fait grâce, alléluia. Et le troisième état, et ça c'est l'état critique du sarment. Le troisième état, si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Alors deux possibilités, soit il était qu'approché du cep, mais il n'était pas sur le cep, donc ce n'était pas un vrai sarment. Ou bien il était attaché au cep, mais pour des raisons personnelles, c'est volontairement détaché du cep. Et ça, ce n'est pas arrivé. Cela est bien évidemment terrible. La finalité, c'est à considérer avec grande attention, c'est très important. Parce, pourtant, qu'est-ce qui pouvait empêcher ces sarments de s'attacher ou de me réattacher au cep? Je ne sais pas. Seraient-ce des événements qui me Même les événements, l'apôtre Paul dira qui me séparera de l'amour de Dieu. Et s'il y en a un qui a subi des événements douloureux, c'est bien l'apôtre Paul. Hein, et quand il dit qui me séparera de l'amour de Dieu, c'est vraiment comme une proclamation. Il ne dit pas ça quand tout va bien. Il dit ça justement quand ça ne va pas très bien. Seraient-ce des drames? Et parfois, on peut connaître le deuil, on peut connaître des choses terribles, des pertes assez douloureuses, et on peut comprendre que ce soit percutant dans le cœur de l'être humain à ce moment-là, du chrétien, et ça l'amènerait presque des fois ou à se détacher ou à se rapprocher, ça dépend des personnes. Mais la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et si même des fois les choses sont terribles, il y a des nouvelles, il y a des événements qui sont tellement terribles, mais notre Dieu est puissant, il est puissant. Alors, pour ne pas me retrouver sur ce chemin-là, dans cette troisième catégorie, verset 6, et c'est pas on ne pointe pas du doigt, mais quand même une réalité, comment je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me retrouver sur ce chemin-là, Qu'est-ce que je peux faire? Ben, il est une évidence. Il faut que je m'attache encore plus au cep. Ah, vous allez me dire, il n'est pas lisse, le type. Oui. Deutéronome 11, 22 dira ceci, « Car si vous observez tous mes commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. » Il parle de la notion de s'attacher à Dieu. Je ne sais pas si vous avez souvent médité sur le sujet, moi personnellement, je médite quelquefois, est-ce que tu t'attaches vraiment à Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui s'approche plus de toi et toi voilà, est-ce que tu vas vers Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Dans Ésaïe 64, verset 7, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Vous voyez? Personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Le peuple était en piteux état à ce moment-là. Et au lieu de s'attacher à Dieu, il vivait. Et nous, dans nos vies, il y a toujours ce choix. Dans ma vie au quotidien, soit je vis ma vie, pas de problème. Mais aussi, est-ce que je vis ma vie, mais je veux m'attacher à toi, Seigneur. Pour ne pas se détacher de quelqu'un, il faut l'attacher encore plus, s'attacher encore plus. Je pense à des situations que je vais faire à certains, physiquement, dans des jeux, c'est des choses comme ça. On les attache et on les lâche pour les rattraper. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hébreux chapitre 2, verset 1, est dit, et ça, ce verset est très intéressant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Mes frères et sœurs, c'est l'appel de Dieu pour nous tous, que nous portions peu de fruits ou pas de fruits, que nous portions beaucoup de fruits, ou que nous soyons prêts à être écartés du cep parce que nous nous retranchons. Ben, mes amis, il faut surtout qu'on s'attache de plus en plus au cep et qu'on dise « Non, Seigneur, je veux m'attacher à toi, je veux apprendre, je veux aller plus loin. » Je termine. Si tu ne portes pas de fruits, le retranche, ne le prends pas et réfléchissez, dites-vous bien, il retranche dans le sens, il le met dans une autre disposition, dans une autre position, il élève, il le déplace. C'est le temps peut-être pour vous, pour toi, de laisser le soleil de justice produire ce qu'il souhaite dans ta vie. Peut-être d'accepter de sortir de, de ce contexte dans lequel tu te trouves. Mais si tu le fais pas de toi-même, si tu collabores pas, ça se fera parce que le Seigneur t'aime et il va produire des choses. Mais peut-être il est temps aussi de dire, Seigneur, si tu dois permettre certaines choses, fais-le. Si tu portes du fruit, n'oublie pas qu'il t'émonde encore et encore. C'est pas une fois dans la vie de la vigne qu'on émonde. Hein, là, je suis sûr de ne pas me tromper. Le vigneron se réjouit certainement de ton fruit, mais il va en susciter d'autres. Et c'est pour ça que la Bible dit aspirer aux dons spirituels, par exemple. La Bible dit de nous affectionner aux choses en haut. Parce que c'est comme si elle disait, je veux produire en toi quelque chose. Je vais faire des choses par toi, dans ton cœur, dans ta vie, au travers de toi. Peu importe si tu es vu ou pas vu, mais je veux faire des choses avec toi. Mais j'attends que tu le veuilles. Vous voyez, c'est comme si Dieu me disait ça. Je veux faire plus, mais pourquoi tu aspires pas? Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur? Et j'accuse personne ce matin, je réfléchis, hein, tout haut, je me parle à moi. Il veut te donner bien plus. Il veut que tu sois un instrument de vie dans ce monde. Il veut que tu produises un fruit. Il veut que ta lumière brille. Alors on a parlé de la lampe ces temps-ci et d'autres sujets, on pourrait en parler longuement. De grâce, ma dernière phrase. Attachons-nous de plus en plus au cep. Et quand nous sentons que nous fléchissons, ça veut bien dire, va t'attacher au cep. Parce que le serment, il ne dit pas, oh, le fruit, il ne regarde pas là-bas, il regarde au cep. Et comme il est attaché au cep, le fruit est là. Et nous sommes là dans cette condition. Si tu sens que le vent, les orages, les tempêtes ébranlent toujours ta vie, c'est que tu as besoin d'attachement au cep. Ça ne veut pas dire que tu es insensible. Ou tu dois un chrétien, il est tellement dans le ciel qu'il n'a aucun sentiment. Ça, excusez-moi, ça c'est de la théorie, ça vous le mettez à la poubelle. Il a des sentiments. Mais Dieu passe par nos sentiments, mais il vient toucher notre esprit. Et le fruit qui demeure, ce n'est pas les sentiments, parce que les sentiments, ils sont passagers. Mais ce que Dieu va produire, ça va être éternel. Et Dieu se glorifie. Attachons-nous toujours plus les uns les autres au cep, parce qu'il y a des vents, il y a des orages, il y a des violents qui sont là. On a vu vendredi, là, il y avait de la grêle un peu partout. Là. Ça matraque certaines vignes. On voit bien que des fois, c'est difficile pour le fruit. Mais nous, on veut demeurer en lui. Et contrairement à ce qui se passe dans la nature, des grêles peuvent détruire toute une production d'une année. En Dieu, il n'y a aucune grêle qui peut venir à bout d'un serment si ce serment est attaché au Seigneur pleinement. Alléluia, mes frères et sœurs. N'ayons pas de la crainte. S'il y en a un qu'on doit craindre, c'est Dieu. N'ayons pas peur de l'avenir. Mais pour que l'avenir, on soit garant de la vie de Dieu dans l'avenir, je dois m'attacher au cep. Produisons ce fruit que Dieu veut, mais on peut le produire que par l'attachement. On peut le produire que par l'unité avec le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. On va prier ensemble avant de nous séparer. On va faire des annonces après, mais on va ensemble prier. On se recueille quelques minutes. Oui, ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples et nous sommes simples, comme des enfants, Seigneur. Ta parole, pour nous, n'est pas juste de la théologie intellectuelle que nous voulons connaître, mais nous voulons connaître ta vie. Et je te remercie parce que tu nous conseilles par ta parole, tu nous enseignes, tu nous montres, tu nous encourages, tu nous appelles, tu nous reprends parfois. Et tu ne le fais pas dans le but de nous molester et dominer sur nous. Mais tu le fais dans le but que nous soyons vraiment libres en nous soumettant à toi de tout notre cœur. Nous ne le faisons pas parce que c'est nécessaire, c'est ainsi, mais nous le faisons parce que nous savons que c'est là notre place, c'est là la joie, c'est là la vie, c'est là l'abondance, c'est là parfois la souffrance. Mais ce qui est certain, c'est que tu es avec nous, que tu es le divin vigneron. Nous voulons te remercier pour toutes les fois, Seigneur, où tu nous as sortis de situations. Ou si nous étions restés dans le même contexte, on aurait pu péricliter. Nous te rendons grâce. Parce que cela, nous n'étions pas conscients, mais toi, tu étais conscient de ces choses. Te remercions pour cette patience que tu as à notre égard, jour après jour. Combien de fois on peut passer à côté de ce que tu voudrais, et pourtant tu uses de patience. Tu agis, tu, te glorifie. Tu es bien le souverain et nous te disons, Seigneur, que c'est bon pour nous de te connaître. Nous voulons ensemble te dire, nous voulons nous attacher à toi bien plus. Nous voulons pas, Seigneur, connaître juste du bout des lèvres, superficiellement, être, Seigneur, des chrétiens décemment proches du cep, mais nous voulons être attachés au cep pleinement. Nous voulons pas, Seigneur, être comme, mais nous voulons être en toi. Nous voulons pas paraître, mais nous voulons être vraiment, avoir ce cœur qui te plaît, qui t'honore. Et je te prie de bénir chacun d'entre nous, de nous aider dans notre foi, de mettre les choses en place, de collaborer à ce que toi tu mets en place dans nos vies. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Amen.